par l'émission d'aujourd'hui parce que c'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai vu le film. Déjà, la bande-annonce avec tous les sponsors, ça m'a complètement scotché. Je me suis dit, c'est pas possible, on se fout de nous. Et voilà. Et puis en plus, cette voix qui, comme Dieu, qui s'adresse aux humains, je crois que Yann Arthus Bertrand, c'est vraiment mégalomane. Merci beaucoup pour cette émission. Allez, au revoir et bonne année encore, Marie-Lou.
Oui, bonjour à tous. Eh ben, c'était pour dire que nous avons rajouté le nom de Yann Arthus Bertrand parmi les personnes à entarter de toute urgence. Allez, bonne fin d'année à tous et à bientôt. Ciao.
Oui, bonjour, c'est Mickaël du 76. Voilà, ce serait pour vous demander pourquoi, alors qu'il y a les grévistes de la faim au Pétrel à Paris, la presse publique, Radio France entre autres, ne diffuse pas plus d'informations que ça. On licencie EDF-GDF, c'est grave. Le droit de grève en France est atteint et on ne fait rien et personne ne le sait. Merci.
Ah, l'Iran, vous inquiétez pas. Quand Bolloré, Arriva, Bouygues, Lafarge, France Télécom, etc., quand les États-Unis pourront y vendre des armes et installer des bases militaires, quand l'Iran sera soumise au lobby occidental, on n'entendra plus parler démocratie. Allez-y, les médias, bourrez-nous le crâne de mensonges. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe, bonjour tous les fidèles. On arrive à la fin de l'année, dernier jour d'émission. Je voulais juste te souhaiter à toi et à tout le monde, tous ceux qui écoutent cette émission, une meilleure année 2010. 2009, ça n'a pas été un bon cru. La langue de bois a été partout. Elle continue à empester le monde. Il continue à parler des succès où il n'y a que des échecs. Et heureusement, il y a ton émission qui permet à plein de gens de voir autre chose, de comprendre les choses autrement. Continue, Daniel. Il n'y en a pas beaucoup, donc il faut la préserver et tu comptes avec notre soutien, c'est sûr. Bonne année à tous, bon courage à tous et comme disent les militants, que la lutte continue. À bientôt. Ciao.
Merci pour ces messages, chers AMG. Merci pour vos vœux. Et bien sûr, en retour, recevez les vœux de l'équipe de la Basse J'y suis pour cette année à venir. Nous, pour ce dernier jour, on vous propose de prendre de la hauteur. 4824 mètres. C'est pas mal quand même. Hein, 4824 mètres, c'est le sommet du Cerro Rico, la montagne riche, c'est-à-dire Potosi. On va à Potosi. Vous connaissez Potosi, mais si. Au moins à travers une expression qui vient de loin, qui dit « c'est pas le Pérou ». Quand on dit « c'est pas le Pérou », eh bien, ça vient de là, ça vient de Potosi. Potosi, aujourd'hui, ça n'est pas le Pérou, c'est la Bolivie, mais à l'époque, lorsque cette mine est rentrée en activité en 1545, eh bien, on disait que c'était le Pérou. C'est de là que viennent, j'allais dire, tous nos emmerdements. Pour beaucoup, c'est là qu'est né le capitalisme. En tout cas, c'est de là qu'on a extrait des tonnes et des tonnes et des tonnes d'argent, de minerais d'argent. Minerais qu'on transformait sur place. Et oui, on peut visiter à Potosi les ateliers dans lesquels on fabriquait la monnaie qui partait ensuite vers l'Espagne, puis vers l'Europe, et qui a été à la base, à la source de notre enrichissement et de nos emmerdements. Ça a été extrêmement coûteux en exploitation humaine, ces mines de Potosi. Eduardo Galeano estime à 8 millions le nombre d'hommes et de femmes aussi morts dans ces mines. Le chiffre le plus courant est de 6 millions. On peut parler, peut-être pas de génocide, mais en tout cas d'ethnocide peut-être, ou de sociocide, et c'est un endroit considérable. C'est pas facile d'accès, parce que d'abord il y a l'altitude, quand vous venez de nos latitudes, il faut quelque temps pour s'accommoder, et puis ensuite, évidemment, le grand intérêt c'est de pénétrer dans ces mines, qui sont toujours en exploitation, ça plus la même ampleur que jadis, mais l'exploitation aujourd'hui continue, on va voir dans quelles conditions. Voilà, c'est un haut lieu de notre histoire collective dans lequel je vous emmène pour finir cette année avec nos meilleurs vœux renouvelés et avant les quelques messages qui viennent et que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Bonne année à tous.
Vous savez quoi ? Le sarkozisme envahit le jeu des 1000 euros. Aujourd'hui, mercredi 30 décembre, j'écoutais le jeu des 1000 euros et puis c'était le jour des jeunes, vous savez, le mercredi. Alors ça devait être deux jeunes étudiants, un jeune homme et une jeune fille. Et puis, c'était lui qui parlait tout le temps, d'ailleurs. Il répondait à toutes les questions. Il n'y a que quand il avait un doute qu'il consultait la jeune fille, qui s'appelait Céline. Et puis, parcours sans faute, jusqu'au banco inclus. Et alors arrive la question du super banco. Le présentateur leur dit, est-ce que vous tentez le super banco? Et le candidat de lâcher, vous savez, nous, on prépa, on apprend à relever les défis. Alors, super banco. Je me dis, bon, ça va... Les bien formatés, voilà. Et puis la question, c'était, qu'est-ce qu'un animal lucifuge? Comme le cafard, le termite, je ne sais plus quoi encore. Là, comme il ne savait pas, il consulte la demoiselle, puis il ne trouve pas. Et à la fin, il dit, oh, ça a à voir avec les larves. Et alors, j'ai trouvé ça symboliquement intéressant, parce qu'il ne faut pas être grand clair pour deviner que lucifuge, ça veut dire qu'il fuit la lumière. Comme centrifuge, ça veut dire qu'il fuit le centre. Ça, les centrifuges, c'est tous ceux qui ont lâché Bayrou après le premier tour pour rejoindre Sarkozy. Mais il n'a pas trouvé. Et voilà, cette idéologie-là, cette pensée-là de l'entreprise qui relève les défis, ben elle fuit la lumière et elle ne le sait même pas. C'est ça qui m'a frappé. Bon, mais moi, je vois toujours des choses où il n'y en a pas.
Voilà, je voulais dire que vous allez voir l'énergie qu'ils vont mettre pour nous la refaire, cette taxe carbone. L'énergie qu'ils mettent pour imposer les plus pauvres. C'est dommage que les gens qui sont dehors ne bénéficient pas d'autant d'énergie. Et puis, ce soir, on peut peut-être éteindre la télé quand notre cher président va parler. Si tout le monde faisait ça, qu'est-ce que ça ferait du bien? Bonne année. Au revoir.
Il fait de plus en plus chaud, là. Ça devient irrespirable. Une vieille tour par terre. Et là, il faut se mettre à quasiment à genoux pour passer. Il y a une odeur là dégueulasse. Un vieux jus par terre. Waouh. Putain.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Antoine Chao. Bolivie, une révolution en dents de scie. Flight number 2, arriving from New York. Voilà, là on est à Potosi. Et on va monter tout là-haut.
Au Cerro Rico, c'est le nom.
Voilà, Cerro Rico, c'est-à-dire la montagne rouge, orange, ocre, grise. De la mine. C'est là-dedans que tout s'est passé et continue de se passer. Mais avant de monter, là, il y a un monument étonnant. C'est le monument aux morts, j'allais dire aux morts. Alors disons aux mineurs. Et ça représente un mineur héroïque avec son marteau-piqueur dans une main et de l'autre, il brandit un fusil. Et puis au pied de ce mineur, il y a une figure de femme accroupie en bronze, en métal comme ça, et qui visiblement est vénérée parce que. On voit qu'il y a des parties du corps qui sont régulièrement frottées, notamment ses seins dorés.
Voilà, nous sommes dans la place El Minero, la place des mineurs. Oui. En 1952, il y avait une révolution pour nationaliser les mines. Jusqu'à 1952, les propriétaires des mines en Bolivie, c'était des entreprises privées. Et il y avait des entreprises étrangères et boliviennes aussi. Qu'est-ce qu'il a passé, les mineurs? Ils ont fait, avec les paysans, la révolution pour nationaliser les mines et pour devenir le propriétaire aussi de la campagne. Aujourd'hui, on peut voir le statut du mineur avec son fusil, son marteau-piqueur. Oui, le marteau-piqueur représente le travail qu'ils font à l'intérieur de la mine, les fusils, la révolution qu'ils ont fait à l'époque. Oui. Pour nous, c'est très important cette place des mineurs parce que ici, on commence toujours les manifestations sociaux. Les étudiants, le peuple en général commence la manifestation sociale ici, dans la place du mineur.
Voilà, c'est quand même étonnant, c'est que le mineur, là, idéalisé, héroïsé, qui se découpe sur le ciel bleu avec le torse jaune, torse nu, il est sur un tas de cailloux. Et sur ce tas de cailloux, effectivement, il y a cette femme, il y a aussi l'entrée de la mine. Et l'entrée de la mine, c'est un petit trou noir, comme un trou à rat, dans lequel tous ces mineurs vont être obligés de s'engouffrer, justement, dans ces entrailles du diable, pour aller extraire ce minerai.
Parce que nous sommes fiers d'être d'une famille minière. Oui, par exemple, moi aussi, mon père était mineur. Et je suis fier de descendre d'une famille minière, d'un homme qui a travaillé dans la mine.
À Potosi, si vous croisez un homme qui a plus de 50 ans, c'est probablement pas un mineur. Les hommes meurent tôt et depuis longtemps autour de Potosi. À côté de Potosi, sur ce Cerro Rico, cette montagne qui, depuis le début du XVIe siècle, est creusée dans tous les sens de milliers de galeries pour extraire l'argent. L'argent, pas seulement, l'étain, le zinc, différents minerais, mais essentiellement l'argent depuis le XVIe siècle. Et l'argent extrait de cette mine a favorisé, a été à la base du développement de notre Europe et de l'ensemble de notre système. Un chroniqueur indien au XVIe siècle disait « C'est grâce à cette mine que se maintient la Castille, que Rome est Rome, que le pape est le pape et que le roi est le monarque du monde ». Et un certain Marx Karl, dans le premier tome du Capital, dit « La découverte des gisements d'or et d'argent en Amérique, la croisade d'extermination, d'esclavagisme et d'ensevelissement dans les mines de la population aborigène, le commencement de la conquête et le pillage des Indes orientales, la transformation du continent africain en terrain de chasse d'esclaves noirs sont autant de faits qui annoncent l'ère de production capitaliste. Ces processus idylliques représentent autant de facteurs fondamentaux dans le mouvement de l'accumulation originaire. Pour beaucoup, c'est là que le capitalisme est né, sur cette montagne à plus de 4000 mètres. Et c'est pas facile de s'adapter tout de suite à la seconde quand on arrive à ces altitudes. On est pris du mal de l'altitude, c'est le cas de tout le monde. Et contre ça, on va le voir, eh bien, il y a la coca. Il faut mâcher des feuilles de coca, ce que nous allons faire pendant toute cette heure. Soyez pas trop étonnés si on a l'air, on a une prononciation un peu pâteuse. C'est à cause de la chique de coca que nous nous sommes fait dans les joues, parce que c'est le moyen de lutter contre ce mal de l'altitude qui se dissipe au bout de quelques jours. Donc voilà, un haut lieu de l'histoire de l'humanité qui continue aujourd'hui. On va rentrer dans cette mine, elle est toujours exploitée. Évidemment, c'est pas les mêmes proportions qu'autrefois. Autrefois, on dit qu'au total, entre l'ouverture de cette mine en 1545 et puis le ralentissement de l'activité au moment de l'indépendance de la Bolivie, c'est-à-dire au début du 19e siècle, on estime à 30 000 le nombre de tonnes d'argent extrait de cette mine. Et la légende la plus courante, le cliché le plus courant, mais qui est un cliché très lumineux, dit que la quantité d'argent extraite des mines de Potosi pourrait construire un pont de Potosi à Séville, mais qu'on pourrait construire un autre pont en parallèle avec les ossements des centaines de milliers de mineurs morts à la tâche, essentiellement et presque exclusivement des Indiens, des indigènes de cette région, ainsi que des esclaves amenés, déportés d'Afrique, qui sont venus aussi mourir dans les veines de ces mines, mais pas très longtemps parce que ils avaient beaucoup de mal à s'acclimater. Et vous allez voir comment ça se passe à l'intérieur de cette mine. La plupart ne sont pas étayés. On y respire de la poussière, des gaz de toutes sortes, mais on y travaille tout de même, toujours, aujourd'hui, on gratte et on espère. C'est jusqu'à 16 heures, c'est là-bas si j'y suis. Bolivie, une révolution en dents de scie.
Trabajando noche y día, orgullo de mi Bolivia. Pásenlo como y martillo, corazón noble y minero. Pásenlo como y martillo, corazón noble y minero. Sudor sabor a estaño en los negros socavones. Sudor sabor a estaño, orgullo de mi Bolivia.
Là, c'est le marché, hein.
Oui. À droite, par exemple, vous pouvez voir les magasins de coca, d'accord?
Ah oui, dans les gros sacs, là, c'est la coca.
La coca. On peut voir aussi l'alcool. L'alcool, c'est pour les mardis et les vendredis, normalement.
Mardi et vendredi, c'est le jour de l'alcool.
Oui, pour faire le rituel à l'intérieur de la mine. Oui.
Mais c'est quel genre d'alcool? C'est du rhum, c'est quoi?
Ah non, ça, c'est l'alcool potable. 96 degrés.
96 degrés, bah, c'est bien.
Oh,
ça,
c'est,
ça
bien.
Fait, c'est pas comme si c'était 100 degrés. Et ça se boit pas, ça?
On le boit.
Ah oui.
Au début, il faut le boire
au point d'habitude. Ah oui, bien sûr.
Pur. Déban les statues du diable pour les montrer que nous voulons pur d'argent.
Ah, c'est dans le rituel, il faut boire l'alcool pur à 96 degrés,
ouais,
pour montrer au diable qu'on veut de l'argent pur.
Là, on veut l'argent pur.
Ah.
Et on continue en faisant la compagnie au diable. Il aime ça, il aime d'être avec nous. Ah, regardez là-bas, il achète. Ça, c'est la quantité qu'il utilise pendant une journée. Quantité de coca. Ça, c'est, ça va coûter à peu près 5 bolivianos. 31 grammes de coca.
31 grammes par jour.
Oui. On devient comme Astérix. Ça, ouais, c'est la potion magique de Quechua, d'accord? Comme vous aviez aussi une potion magique là-bas.
Coca. Coca y papichet?
Si.
Coca y...
C'est ça qu'il nous faut, quoi. Un petit peu de coca, de feuilles de coca. Pour grimper, hein.
Ça, c'est des cendres. En fait, il faut un catalyseur pour faire sortir le jus et sortir les actifs de la coca. Donc, on peut les faire avec des pommes de terre, de la quinoa. Et ça, c'est des cendres de banane. Donc, c'est un peu sucré. Mais la dame te propose aussi du bicarbonate. Alors, il faut mâcher vraiment. Hein. Faut pas prendre trois feuilles. Il faut avoir une grosse boule.
Bah, oui. Ouais.
Comme les hamsters.
D'accord. Alors, nous voilà... Ah, Potosi en train de mâcher nos feuilles de coca en compagnie de Wilbert, qui va être notre guide, qui est un gars de Potosi, qui connaît parfaitement le terrain, la question. Son père était mineur, il le fut aussi dans sa jeunesse. Et puis avec Pascal Absy, que nous venons d'entendre la voix, qui est une Française, une chercheuse, qui connaît parfaitement, mais alors parfaitement bien, intimement, aussi bien la mine que les mineurs, que cette ville de Potosi, donc cette ville qui fut une splendeur extraordinaire. Au 17e, c'était la ville la plus peuplée du monde, avec 200 000 habitants. Elle venait devant les grandes capitales européennes, devant Londres, et on y vivait fastueusement. On multipliait les églises, il y avait une fontaine d'église, il y avait des tripots, on y faisait de la musique, on y faisait des tas de choses extraordinaires jusqu'au déclin au 19e siècle. Mais ça a été une très, très, très grande ville, tout ça basé, ne l'oublions surtout jamais, sur l'exploitation féroce des Indiens à travers la mita. On en parlera, la mita, cette forme de travail obligatoire. Galeano, bien connu à travers son livre « Les veines ouvertes de l'Amérique latine », Eduardo Galeano, décrit, s'est beaucoup intéressé à Potosí, bien évidemment, tant cette ville est importante pour le monde entier et pour l'Amérique latine. Et il dit, par les ouvertures des 5000 galeries que les Espagnols pratiquèrent dans la colline, la richesse a jailli au long des siècles, la colline a changé de couleur à mesure que les cartouches de dynamite l'ont vidée et ont abaissé la hauteur de son sommet. Les roches accumulées autour de nombreux trous sont de toutes les couleurs, rose, lilas, pourpre, ocre, grise, dorée, brune.
Et en bas, à droite, là, c'est la ville de Potosí qui s'étend là sur les collines. Aujourd'hui, c'est combien de mines, t'as une idée ?
On ne sait pas, parce que finalement, tout le monde peut ouvrir sa mine. Il faut savoir qu'à Potosí, il y a au moins 4 ou 5 métaux exploitables. Il y a l'argent, le zinc, il y a le plomb, il y a l'étain. Donc selon les cours du minerai, les gens changent de mine pour attraper un minerai différent. Donc ça bouge tout le temps, ça se creuse de plus en plus.
Selon le marché ?
Selon le marché, depuis 500 ans, puisque ça a commencé avec l'argent. On est retourné à l'argent, mais maintenant c'est le zinc, avec l'industrialisation, avec notamment la demande chinoise. On est repassé à l'étain, alors que ça faisait 30 ans qu'on n'exploitait plus l'étain. Et c'est pour ça que les gens pensent que leur montagne, elle est fertile. C'est un être vivant qui reproduit ses minerais. C'est-à-dire que quand on arrête de l'exploiter, l'étain, pendant 20 ans, il revient. Et c'est pour ça que maintenant, on peut à nouveau exploiter l'étain. Parce que la montagne a à nouveau reproduit ses filons.
Pour l'essentiel, Potosí, c'est pendant des siècles l'exploitation de l'argent et de l'étain. Et pendant des siècles, c'est des gens qui vont travailler là dans des conditions de travail forcé, des indigènes, aussi des esclaves africains.
Alors les esclaves africains, ils n'ont pas fait long feu, parce qu'ils ne tenaient pas le coup dans les conditions de vie. On est quand même à 4000 mètres. Les gens n'arrivaient pas à les faire travailler comme
ils l'espéraient.
Comme ils voulaient.
Mais là, mais c'est quand même ce qu'on voit là, c'est le lieu d'une exploitation féroce, d'une exploitation qui a entraîné la mort de centaines de milliers de travailleurs forcés. C'est quand même ça avant tout, Potosí.
C'est ça, et c'est le développement du capitalisme européen.
Oui, ben c'est lié.
C'est le moteur de l'accumulation nécessaire à la naissance du capitalisme.
Alors, a priori, cette montagne, elle s'appelle El Cerro Rico, rebaptisée par les Espagnols, mais elle était sûrement déjà exploitée par les Incas avant. Mais c'est les Espagnols, donc notamment les frères Pizarro, qui se sont jetés dessus comme des cochons affamés, après avoir égorgé Atahualpa, le leader des Incas sur Cusco.
Ils arrivent les premiers. Mais ils n'ont pas le droit d'exploiter, puisqu'en fait, le cerro appartient à la couronne. Mmh. Donc, c'est d'autres Espagnols qui vont recevoir la montagne de la main des Incas et qui vont commencer à l'exploiter en 1545. Le métal est un bien de prestige à l'époque préhispanique. C'est l'arrivée de la monnaie qui fait l'exploitation intensive, qui fait une demande croissante de métal. Les gens ici, ils n'étaient pas très gourmands en métal. C'était un bien de prestige qui circulait entre les élites, qu'on enterrait avec eux quand ils mouraient. Mais ils n'avaient pas la même nécessité de métal que l'Europe monétaire.
On pense toujours que tout commence, le mal arrive avec les Espagnols. C'est vrai, mais auparavant, il y a eu d'autres empires et d'autres colonisations qui se sont produites ici.
Oui, et le fait que les gens parlent quechua à Sucre et à Potosí, c'est une langue de conquistador.
Mais est-ce que les Incas venaient là avec le même projet que les Espagnols, c'est-à-dire l'exploitation des mines, pour les minerais qu'on pouvait y trouver, l'argent, etc.
Je suppose, oui, parce que les Incas étaient des grands métallurgistes. Ils savaient très bien reconnaître une montagne minéralisée. Aujourd'hui encore, les gens, par exemple les mineurs, ils regardent un paysage et ils peuvent voir dans le paysage quelles sont les montagnes qui peuvent être susceptibles de receler de l'argent. Bien sûr que les Incas avaient cette connaissance. Ils voyaient ce genre de cordillère qu'on a autour de nous et ils se rendaient bien compte que c'était des montagnes minéralisées.
Alors ils se sont fait doubler par les Espagnols ?
Ils se sont fait doubler ou ils ont utilisé Potosí pour
trouver une place dans le nouvel empire colonial. Ils ont donné Potosi, c'est les dernières hypothèses des historiens, que ce soit les Incas qui ont donné Potosi aux Espagnols pour négocier de conserver un certain pouvoir au sein de l'empire colonial.
Pour avoir leur place dans l'empire colonial qui avançait, ils ont négocié, ils ont donné cette ville et cette mine.
Ils ont surtout donné cette mine, puisqu'il n'y avait pas encore la ville. La ville est née avec le début de l'exploitation coloniale. Elle est née comme un campement minier. On imagine très bien la ruée vers l'argent de Potosi, des cabanes qui se montent et des gens complètement frénétiques parce que la teneur en argent de Potosi est incroyable. Il faut savoir que c'est le plus grand gisement d'argent du monde.
Plus grand gisement d'argent du monde, plus grande exportation vers l'Europe, vers l'Espagne, d'argent de l'histoire. On a une idée du nombre de victimes. J'ai lu des chiffres de 8 millions, 10 millions.
Moi, je pense que c'est exagéré. Par contre, ce qui est vrai, c'est que on sait, par exemple, dans certaines communautés du Nord Potosi, donc le Nord Potosi, c'est juste derrière nous, c'est un lieu qui envoyait des travailleurs forcés dans la montagne de Potosi. Les gens célèbrent aujourd'hui encore le jour où les Indiens étaient regroupés par les Espagnols pour se mettre en marche pour Potosi, et ils le célèbrent comme une cérémonie funèbre. C'est comme un adieu aux morts pour tous ces gens qui vont aller travailler à Potosi.
Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará hoy lejos de aquí. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero Canilla Raimanta, minero Gina Causa Tuní, Panaimai Pisca Puanchu, Suketulia y Tazafescai. Minero Manta Yuya Kunki, minero Gina Causa Tusa, Huarcachari Causa Pari, Huacaricus Pazitus Canu.
Mario, Marino, dal nord de Potosi.
Moi, on m'appelle Mario Marino, je suis du nord de Potosi.
Sì, mucho gusto de conocer.
Je suis ravi de vous rencontrer. Bienvenue à Potosi.
Sì.
Qu'est-ce que vous faites là, au juste?
Juste un petit peu pichando coca.
Là, je suis en train de mâcher de la coca.
Alors, tous les jours, vous faites ça. On s'arrête ici et on commence à mâcher la coca, on commence à faire la chic de coca.
Sì, en la mañana. Todo este... Desde el principio de la semana, ¿no? Desde el lunes a...
Oui, tous les matins, on fait ça, de toute la semaine, du lundi au vendredi.
Et pourquoi? À quoi ça sert?
Bueno, esto es para el trabajo.
C'est pour pouvoir travailler.
Sí, para el trabajo.
Qu'est-ce que ça produit comme effet? Pourquoi c'est si bon?
Ah, bueno, esto principalmente es para que realmente proteja el polvo que dentro de la mine existe.
C'est pour nous protéger aussi de toute la poussière qu'il y a dans la mine.
Sin esto, usted sabe muy bien, no se puede. Tanto también es un poquito para la energía.
C'est aussi pour l'énergie, pour être plus fort.
También un poco para el hambre.
Et pour la faim aussi.
Sin esto, puede haber hambre.
On pourrait avoir faim au fond de la mine.
Sí, porque adentro no se puede comer.
Parce que dedans, on ne peut pas manger.
Sí, porque adentro mucho existe polvo, existe toda clase de... Y hace mal.
Parce qu'au fond, il y a de la poussière, etc. Donc il ne faut pas manger, ça fait du mal.
On n'a pas fait des petits coins dans la mine où on pourrait se protéger pour manger un petit peu?
Non, parce qu'il existe beaucoup d'arsenic.
Non, parce qu'il y a beaucoup d'arsenic en bas. Donc c'est pas...
Mais dis donc, mais c'est quoi cet arsenic? C'est de l'arsenic qui sort de la mine, c'est naturel? Ou bien c'est un produit qu'on apporte de l'extérieur?
De la mine, en la mine existe ça.
Dentro de la mine existe.
Dentro de la mine existe ça. Et c'est comme... Quand ça pousse, première fois, c'est comme, quasi comme eau.
C'est comme de l'eau au fond de la mine.
Luego empieza a secar. Ah.
Donc après ça sèche.
Seca y luego se empolvece, ¿no? Como...
Donc ça, après ça devient de la poussière, c'est de la poussière d'arsenic.
Y eso lo protege.
Et donc comme... avec la coca, ça nous protège de ça.
Voilà, à quoi sert la coca, selon Mario Marino, ce mineur. Ils sont nombreux encore aujourd'hui, environ 4000, on nous l'a dit, à venir s'engouffrer par les trous creusés, les galeries creusées dans cette montagne. Ocre, rose, gris, selon les moments de la journée et de la lumière. Un haut lieu historique, mais aussi un lieu de légende. Toutes les mythes et les légendes qui entourent cette montagne, c'était une production extraordinaire. Toujours aujourd'hui, d'ailleurs, on vous raconte des histoires stupéfiantes. Et puis, il y a des histoires épouvantables. Donc, voilà, c'est toujours cette question et cette interrogation sur le nombre de mineurs morts dans cette mine, la plupart ensevelis sur place. Donc il arrive, lorsqu'on creuse, c'est-à-dire la technique pour creuser, c'est mettre un bâton de dynamite dans un trou, et puis on fait exploser, et puis on attend que la poussière retombe, et puis on vient, et puis on extrait les morceaux qu'on a explosés, puis on espère que là-dedans on va trouver de l'argent, ou de l'étain, ou du zinc, ou différents minerais. Mais il arrive, en faisant exploser, que voilà, on trouve des restes, des squelettes, des ossements de mineurs morts quelques siècles auparavant. Et puis on va voir comment cette montagne est habitée par un personnage très très important qu'on rencontre à chaque orée, à chaque entrée des galeries ou un petit peu plus loin dans la mine, qui est le diable en personne. Au point que certains mineurs vendent leur âme au diable. Il y a un commerce, un marché, afin d'obtenir évidemment les meilleurs gisements, avoir de la veine. Avoir de la veine, c'est ça, avoir de la veine. Tomber sur un bon filon, c'est ça, tomber sur un bon filon. On a là non seulement l'origine de notre histoire économique et politique, mais on a aussi probablement là l'origine de notre langage. C'est pas le Pérou, c'est pas le Pérou non plus pour les enfants. Il y a des enfants qui travaillent dans ces mines. Certaines ONG en font leur chou gras et leur argument compassionnel en vue de lever des fonds. Mais il y a une réalité sur le travail de ces enfants. Depuis combien de temps tu fais ce boulot ?
Yo estoy trabajando desde el año 1983.
Moi j'ai commencé en 83.
Yo estoy trabajando unos 25 años, 26.
J'ai 25 ans, 26 ans maintenant.
26 ans. Sí. 26 ans dans la mine.
Sí, yo empecé a mis 18 años.
J'ai commencé, j'avais 18 ans.
On nous dit qu'il y a des enfants qui travaillent dans la mine, c'est vrai ça?
Sí. Algunos empiezan por causa económico.
Oui, il y en a qui commencent pour des problèmes d'argent.
Su padre ya falleció.
Et si les parents sont morts, si le père est mort.
Si no hay quien realmente mantenga la familia.
S'il n'y a personne pour nourrir la famille.
Edad, algunos empiezan
alors des fois, les enfants commencent à 12 ou à 13 ans.
Usted sabe muy bien que aquí todo es minería.
Vous savez bien qu'ici, il n'y a pas autre chose à faire.
Il n'y a pas d'autre
boulot que ça.
Mais il y a combien d'enfants qui travaillent comme ça?
Hay mucho. Hay mucho.
Il y en a beaucoup.
En Potosí, más que todo, hay mucho.
Surtout à Potosí.
Hay mucho, hay mucho en Potosí, porque legalmente, a veces la minería es un poco medio muy sacrificado, ¿no? Porque hay mucho niño que queda huérfano.
Ici, effectivement, la mine, ça sacrifie beaucoup les gens. Mm. Du coup, il y a beaucoup d'enfants qui sont orphelins.
Sí, eso es.
¿Y tú tienes des enfants?
Sí.
Oui, oui, j'en ai.
Mm. Et ils travaillent à la mine?
Están estudiando, pero me vienen a ayudar a... Sí, en vacaciones.
Ils sont en train d'étudier, ils étudient en ce moment, mais ils viennent ici pendant les vacances et ils m'aident.
Ouais, et ça les renvoie aux études. Du coup, ils sont, ça les motive pour leurs études.
Sí, lógicamente, porque lógicamente, porque.
Bien sûr, exactement, c'est ça.
Cuando subes a la vida orillando la oración, te va guardando la sombra, la virgen del socavón. Minerito Potosí, de estaño es tu corazón. Hasta el fondo de la tierra con el alba ya te va, con el barre no te queda golpeando la oscuridad. Mientras yo quedo pensar si a la tarde volverás. hasta el fondo de la tierra, con el alba ya te vas. Ay, el minero, gajos de metal, la tierra lo traga junto con el carnaval, junto con el carnaval. Minerito potosino,
ok, on rentre maintenant.
Parfait. Hop, on allume les lampes sur notre casque.
On roule ma poule.
Ne touchez pas à droite, d'accord? Les câbles électriques, il y a des tuyaux pour les comprimer aussi. Attention la tête.
Ah ouais, mais c'est ça qui est pas bien, c'est la vengeance du petit. Ah oui.
Eh ben oui, c'est la vengeance des petits, là. C'est cette mine dans laquelle nous avançons. Ça fait 1m50, 1m60 peut-être de hauteur. Et voilà. Et il faut se plier en deux, en quatre pour avancer. Nous voilà déguisés en mineurs avec le casque, avec la lampe et on avance. Alors, ces mines ne sont pas étayées, ne sont pas ventilées. Et voilà, on avance là-dedans avec son équipement, sa pioche, sa dynamite, le détonateur, et puis la pelle, et puis on espère tomber sur un bon filon. Alors il y a des mineurs très malins qui savent à l'œil où c'est, etc. Il y a des chanceux, des moins chanceux, des malchanceux. On avance dans cette galerie, et de temps à autre, à droite ou à gauche, on voit des galeries qui partent de celles d'où nous sommes, mais alors celles-là, elles sont grosses, il faut ramper pour s'engager dedans. Il y a juste la place pour ramper, et elles peuvent comme ça faire des dizaines, voire des centaines de mètres jusqu'au lieu de l'exploitation et du fameux filon. Donc on avance au gré des balancements de nos lampes et des odeurs parfois violentes d'acide, d'enfermement, de gaz et de poussière.
Ça va ?
Ouais, très bien. Très bien.
T'as vu ces couleurs là ? Le vert, c'est vraiment un vert véronèse. Hein.
Ça, c'est le sulfate de cuivre.
Il y a un ocre à côté.
Un soufre. La couleur du soufre. Le vert, c'est le sulfate du cuivre.
Alors, Wilbert, elle a combien d'années, cette galerie, là, cette première galerie, cette bouche ?
4 siècles. Ancien, parce que on peut voir la bouche de la mine, l'arche.
Une arche en pierre ?
En pierre, oui. Les Espagnols ont utilisé ce système roman pour fortifier la mine. Aujourd'hui, les mines sont fortifiées avec les bois d'eucalyptus. La plupart des mines ont des noms de vierges ou de saintes. Mm-hmm. Ça veut dire Candelaria, c'est une vierge. Okay? À côté, il y a une autre mine appelée Rosario. Mm-hmm. Et puis il y a des mines appelées Santa Elena, Santa Rita, San José, San Germán. Ça c'est clair que les Espagnols ont ouvert ces mines et ils ont mis les noms catholiques parce que c'était leur mission des Espagnols. De transformer les Indiens en catholiques.
Ouais.
En chrétiens catholiques. Hein? Imaginez, nous sommes seulement à la rentrée de la mine. Imaginez, plus au fond.
Ouf. Repos.
Oui.
Là, ça sent fort, c'est le soufre.
On peut sentir déjà le soufre ici. Et l'arsenic.
Et l'arsenic aussi.
Oui.
Waouh.
fort ici.
Et devoir travailler ici 8 heures, 7 heures chaque jour. Vous voyez, c'est pour ça qu'après 5 ans, 6 ans, tout le monde a la silicose.
5, 6 ans.
Dans la mine. Moi aussi, mais paix.
Alors, votre père, il travaille dans cette mine?
Mon père, oui, il a travaillé dans cette mine. C'est pour ça que j'ai le droit de venir ici.
Il fait de plus en plus chaud, là. La respiration est de plus en plus difficile.
Oui.
Ça devient irrespirable. Une vieille tour par terre, là. Et là, il faut se mettre à... quasiment à genoux pour passer. Il y a une odeur là dégueulasse, un vieux jus par terre. Ouah. Irrespirable ici. Oula, c'est dur là, hein.
Vous savez, asseyez-vous tranquille, lentement.
Ouais.
On aura...
Buenas.
On s'habituera.
On va s'habituer. Il fait chaud, là.
Ouf. On est arrivé. Et regardez, c'est l'endroit où on s'est reposé.
Ah ouais.
Ici, nous sommes dans un endroit de repos.
Attends, hein. Tant mieux.
Imaginez l'endroit où il travaille.
Oh putain.
Allez, dernier 50 mètres là. Ah, c'est irrespirable. Ok, ça c'est pour le tio, pour la pachama. Ah, puis...
Alors, tu verses un peu d'aguardiente et de...
Oui, sur le tio, pachamama.
Alors là, on est... on explique qu'on est avec les deux mineurs qui sont là, ici, en train de mâcher la coca, en train de cloper. Et il y a une sculpture qui est là, en travers du chemin, qui représente un personnage assis... alors avec des cornes, donc diabolique, une moustache, une barbe, et il est assis, et dans ses mains, dans ses mains posées sur son ventre, autour de son ventre, on aperçoit des flacons, on aperçoit des feuilles de coca, et lui c'est le diable.
Oui, rendez-vous, je vais vous présenter.
D'abord nos amis, avant le diable.
Fausto. Et lui?
Alberto.
Compagnons, ils sont des copains, pas des frères. Normalement, ils travaillent entre frères. Normalement, cousins aussi.
Depuis quand vous travaillez à la mine, vous, les gars?
1993.
93, ici.
Pour trouver le filon là sur lequel on travaille, il faut marcher combien de temps encore? Là, j'aperçois la suite de la galerie. Ouais, il faut que je me plie en deux hein, pour marcher là-dedans. C'est combien de temps encore pour arriver au filon?
Un niveau más, hacia abajo.
Moi, je dois redescendre d'un niveau, en fait.
Oui.
Pour le moins, me queda unos 30 minutes.
Ouais, il faut que je marche encore 30 minutes.
Alors, ça va être quoi, ton activité? Qu'est-ce que tu vas faire?
Trabajo individualmente, puedo hacer de todo.
Moi, je travaille seul, alors je fais tout.
Tu fais un trou?
Si.
Oui.
Tu mets la dynamite?
Si, se pone la dynamite.
Oui, on met de la dynamite.
Mm-hmm. Tu allumes?
Si.
Tu te caches?
Si, hay que esconderse por longtemps, hay que alejarse unos 50 mètres.
Il faut s'éloigner de 50 mètres à peu près, ça dépend.
Là, après l'explosion, il y a de la poussière.
Si, polvo. Oui, oui, beaucoup de poussière.
Alors, tu attends combien de temps avant de revenir à l'endroit de l'explosion?
Une heure et demie. Picchiando la coca, non? Il faut attendre une heure et demie, alors on prend la coca et on attend. Si.
Voilà, et puis au bout d'une heure et demie, tu viens voir.
Me acerco y si digamos un disparo falta, entonces hay que verificar, ¿no? Si todo se ha reventado. Donc là, je m'approche et puis je vérifie si toutes les charges ont explosé.
Et puis?
Después, o sea, hay que sacar afuera. Con pala, pico y...
Après, il faut une pelle, une pioche.
Cargando, hay que sacar también.
Alors, il faut le charger sur notre dos.
Oh! Sur un sac?
Sac, c'est la capine.
Un sac comme celui-là, avec une lanière. Un sac en toile.
Ah, d'accord.
Oui, il se carga. 10, 20, hasta 50 kilos, se puede cargar,
¿no? 10, 20 ou jusqu'à 50 kilos, on peut porter.
Lo que está costando más en la ciudad, ¿no?
Moi, je prends que ce qui a de la valeur, oui.
Plata, plata, estaño,
l'étain.
Es lo que tiene más valor.
C'est ça qui a de la valeur.
Es más o menos.
Les mélanges de zinc et de plomb, ça a moins de valeur.
Yo quiero trabajar hasta que tenga otra profesión.
Moi, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai un autre métier.
Et qu'est-ce que tu cherches d'autre?
Estoy aprendiendo en sastrería.
J'apprends la confección.
Sí.
Voy llevando los barrenos al socavón. Voy llevando los barrenos al socavón. Mano fuerte y vida triste, minero soy, minero soy. Golpeando piedra y piedra, de sol a sol, de sol a sol. Me duele el pan que me gano, minero soy. Ya vendrán tiempos mejores, ya vendrán tiempos mejores, ya vendrán tiempos mejores, minero soy. Minero soy.
D'abord, il faut donner au diable un petit peu de cadeau, oui. D'abord, une cigarette pour le diable. Oui, j'ai un.
Cigarette du diable.
Cigarette pour le diable. On parle quechua ici. On préfère parler le quechua entre nous parce que c'est notre langue maternelle. Ah, il n'a pas une caipère, hein?
Ah, tu allumes la cigarette du diable.
Oui. Maintenant, paix des boissons pour le diable. On va. Voilà. De l'alcool, oui. Tio Jorge. Son nom, c'est Tio Jorge. L'oncle George.
Donc, c'est pas l'oncle Sam?
Ah non, c'est pas l'oncle Sam. Et il chique la feuille de coca, regardez.
Mm-hmm. Ah oui. Non, tu lui donnes de la feuille bien fraîche.
En faisant ça, on montre notre respect à lui. Oui. Il est content maintenant. Oui. Parce qu'il est seul pendant la semaine. Mais quand on arrive le vendredi, avec les frais, feuilles de coca, l'alcool, les cigarettes, il est content. Il va nous protéger, il va nous donner plus de minéraux. C'est ça la raison pour laquelle on vient ici. Si tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir.
Ah, hein? C'est le don et le contre-don.
Toujours.
C'est ça.
Ça, c'est le principe de la culture andine. De la culture andine, oui. Ici... Pour nous, pour tout le monde, il est le diable, oui, mais on l'appelle Tio. Beaucoup de gens vont penser qu'on adore le diable, mais c'est pas ça. L'image du diable vient avec les Espagnols. Les Espagnols sont arrivés
sur les Andes, avec la croix de Jésus-Christ et avec le diable aussi. Parce qu'avant, il n'y avait pas un diable. Il y avait des autres divinités, le soleil, la lune, la mère terre ou la Pachamama. Et aussi, sous terre, il y avait un esprit appelé Supai. Supai habitait sous terre. Supai était bon et mauvais. Comme la Pachamama, comme le soleil, comme la lune, comme la nature en général. Mais pour les Espagnols, non. Supai est le diable, le pire personnage de la Bible.
Dis-moi, mais alors, j'ai l'impression qu'il a un très gros sexe.
Ah oui.
Ta divinité, là. J'ai l'impression même, seulement, je vois bien qu'il a un très gros sexe, une grosse paire de colonnes.
Le sexe veut dire production, force, machisme, pouvoir. Le sexe, c'est pouvoir. Sans sexe, il n'y a, c'est pas possible de faire une autre vie.
Mais alors, pourquoi il est cassé, là? Explique-moi.
C'est un accident, hein.
Ah, c'est un accident du travail.
Il y avait un petit accident ici.
Ah.
C'est pour ça que quelqu'un a cassé ça.
Donc,
mais par accident.
Le sexe du diable est en travaux.
Adals un chaguito. Et maintenant, on va boire.
Oula.
En montrant notre respect à lui.
Oui, mais alors, c'est un drôle d'alcool, hein.
Et alors, oula. C'est le fameux Ceibo Buen Gusto à bon goût. Mais de 96 degrés.
Tout ça, mais non, pas 96 degrés.
Mais il faut faire la chalia.
Tu jettes à la terre d'abord.
Ah,
à la chalia, des fois.
Ça, c'est de l'alcool à 96 degrés. Je jette par terre, quoi, comme ça, hein.
Oui.
Donc on donne un peu à la Pachamama.
Oui, des fois, toujours.
On a des fois.
Une fois,
des.
Oui.
Voilà.
Oui,
il faut voir.
C'est un reportage de Daniel Mermet avec Antoine Chao du 3 mars 2009. Merci à Pascal Apsi et Pablo Cruz. À lire Les ministres du diable, le travail et ses représentations dans les mines de Potosi de Pascal Apsi aux éditions L'Armatan. À lire également Les veines ouvertes de l'Amérique d'Eduardo Galeano publié par Pocket. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Serge Viguier et Mathias Saléon, réalisation Coy Nguyen et Raphaël Moutarde, assisté d'Agnès Lebotte, chef du répondeur Catherine Pinto. Un numéro de téléphone pour le répondeur de là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Là-bas si j'y suis. Écoutez, là-bas si j'y suis.
Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con la pierna gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo.
Un poquito de tequila con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. Los que huelen a meao de viejito, a esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito con un poquito de pornografía. Mujer, tú eres toda una geometría. Tú tienes el pudín como me gusta, estirado con estrías como de repostería, con la falda corta al estilo de Miami, enseñando la mitad del salami. Aquí te traigo juguito de gandinga, coño, zapatea que tú no eres gringa. Yo te sacudo como un estornudo, te pongo a vomitar el desayuno. Te enseño mi lenguaje, hombruno, y con él te vacuno. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba.
Mira,
mira la gordita metiendo.
moviendo la barriga, mira cómo se fatiga.
Mira,
bajando hasta el fondo profundo, bien hondo.
Mira, mira.
A las viejas les tiro con mi retórica mujeriega, con un poquito de filosofía griega, pa' que se suelten las pellejas y empiecen a picar como abejas. Si no hay pareja, pues bailamos con la sombra. Aquí no hay alfombra, aquí bailamos en el fango con un poco de charango. Vamos a resbalar esos pies como en tango. Y si tiene tanga, a enseñar toda la fritanga, que por ahí viene la ganga con una bullanga, a llenarse los ojos con tu burundanga. Ay caramba, tú me vas a matar de un ataque de asma. Tú me vas a matar como los fantasmas de un susto. Con todo ese revoltillo meneándose, yo le llego hasta Cusco, le llego hasta Perú, snoot. Desnudo, me como todo el pollo, me como tu filete crudo. Tú, pero que tú nada más. Tú me tienes gordito y bien cuidado, bien, pero que bien mal acostumbrado. Ella me cocina y yo le cocino un pavo real como los peregrinos. Me tienes dando vueltas como torbellino, del agua al lado como los pingüinos. Tú eres una fantasía, tú eres un mito, como Blancanieves y los siete enanitos. Con ese meneíto a mis huevitos le dan ganas de parir como a 13 cabritos. Mira los aburridos con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas culemba. Mira cómo aprietan la bemba.
Mira,
mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga.
Mira,
bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo.
Mira.
Des artistes, Isabelle Dordain.
Et pour bien commencer l'année 2010, le Pont des Artistes vous offre les meilleurs moments des concerts de l'année passée. Avec Vincent Segal et Balaki Sissoko, Sandra Nkake, Juan Rosoff, Laurent Garnier, Tony Allen, Alan Corbel, Declan de Débarras,
non, bad, hein,
et Marianne Faithfull. En concert.
Le Pont des Artistes, tous les samedis à 20h.
France Inter, il est 16h, vous retrouvez Arnaud Poulard pour les informations.
Bonjour à tous, on vient de l'apprendre, deux journalistes français ont été enlevés hier en Afghanistan. Les deux hommes circulaient en voiture dans la province de Kapisa au nord-ouest de Kaboul quand ils se sont fait capturer par des insurgés. Leur interprète et leur chauffeur ont également été enlevés, on n'en sait pas plus pour l'instant. En Finlande, l'auteur présumé de la fusillade de ce matin a été retrouvé mort. Cet homme de 47 ans a ouvert le feu peu après 10 heures dans un centre commercial d'Espoo, la deuxième ville du pays. Quatre personnes ont été tuées, trois hommes et une femme. Un cinquième cadavre, celui de sa petite amie, a également été découvert dans un appartement de la ville. L'actualité en France, le parquet de Lyon dispose d'une vidéo accablante. Sans surprise, deux jours après le décès d'un SDF de 25 ans, quatre vigiles d'un hypermarché devraient être mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les quatre hommes sont soupçonnés d'avoir violenté et asphyxié le jeune homme qu'ils venaient d'arrêter en train de voler des bières. Un jeune homme qui est mort des suites d'un malaise. Il n'y a aucune trace d'effraction, aucune piste. Et le ou les voleurs courent toujours. Un tableau des Gare Degas, un pastel estimé à 30 millions d'euros a été dérobé la nuit dernière au musée Cantini de Marseille. Les précisions sur place de Marie-Christine Loriol.
Le vol a été constaté ce matin à 10h par le personnel à l'ouverture de l'exposition, mais de nombreux visiteurs se sont succédés toute la matinée jusqu'à ce que la police décide de la fermeture du musée Cantini. Il était midi et demi. Le tableau volé serait un Degas. Personne ici n'a voulu nous le confirmer, mais il s'agirait des choristes, dit aussi les figurants. Un pastel peint en 1877 par Edgar Degas et prêté par le musée d'Orsay pour cette exposition intitulée David Klimt Toulouse-Lautrec, Degas, de la scène au tableau. Une exposition qui avait commencé le 6 octobre dernier et se terminait dimanche. Le tableau, qui représente des figurants, est de petite taille, 27 cm sur 32, facilement dissimulable. Il a été dévissé et les caméras de surveillance dans les salles sont en cours d'exploitation. À l'heure actuelle, la police est toujours sur place. Aucune information n'a filtré. Les circonstances du vol sont encore inconnues. Intrusion, complicité ou acte isolé d'un visiteur. Marseille, Marie-Christine Loriol, France Inter.
La balade a été de courte durée pour deux détenus d'une prison de Strasbourg qui ont raté leur évasion dimanche dernier, on vient seulement de l'apprendre. L'un des prisonniers est resté accroché au barbelé, le second a réussi à passer le grillage, mais il s'est fait prendre dans le chemin de ronde. Les deux hommes sont rapidement retournés en cellule. Enfin, on termine avec une bonne nouvelle pour la Bourse de Paris, qui a progressé de plus de 22% cette année. La Bourse qui a terminé aujourd'hui à l'équilibre, plus 0,02% à 3 936 points.
France Inter présente Michel Piccoli et Pauline Étienne dans Le Bel Âge, un film de Laurent Perrault, actuellement au cinéma.
J'ai une petite fille, elle s'appelle Claire, un fort tempérament.
Claire, jeune fille de 17 ans, vit seule dans une grande demeure avec son mystérieux grand-père. Ils sont fiers et insoumis. Elle en quête d'avenir, lui tourmenté par son passé. Ils sont tous les deux dans Le Bel Âge. Retrouvez Le Bel Âge dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
Monsieur a-t-il bien milité aujourd'hui ?
Eh oui, Jean-Albert. J'ai envoyé un message au monde.
Oh, merveilleux, monsieur. Mais comment monsieur a-t-il fait ? La tribune des Nations Unies ? La place Saint-Pierre de Rome ?
Non, Jean-Albert. Le répondeur de là-bas, si j'y suis.
À 15h sur France Inter ?
Eh oui, Jean-Albert.
Ah, monsieur, enfin le monde va savoir.
Enfin, Jean-Albert.
France Inter. La différence.
16h04, place au carrefour de l'Odéon. Bonsoir Frédéric L'Odéon.
Et bonjour Arnaud, et ce soir, bon réveillon en tout cas.
Oui, ça, à ça, vous aussi.
Ouais, c'est gentil. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, dernière journée de l'année. Oui, ça mérite un feu d'artifice musical. Alors voilà, des œuvres joyeuses, des pièces pleines d'envolées électriques parfois, comme l'allegro final de ce troisième concerto brandebourgeois, interprété par les solistes baroques suisses. Bah oui, ils sont suisses, mais pourtant, ils mettent le feu au lac. Allegro du troisième concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach par les solistes baroques suisses menés du violon par Andrés Gabetta. Alors le violon, c'est magnifique, on le sait, ça va vite, ça chante, ça fait pleurer, ça cavale, voici la revanche de la contrebasse. Un de mes enregistrements préférés, c'est le très puissant Edgar Meyer qui joue. Et ce que je vous propose, c'est un concerto de Bottesini. Bottesini, remarquable virtuose en son temps, contrebassiste, chef d'orchestre,